Et pour finir, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à ces pages. Nous revoilà, vous et moi, au terme de ce roman, pour notre traditionnel rendez-vous. J'aime en arriver là, à vos côtés. Cela représente toujours une étape importante, d'autant que ce livre tient une place à part, pour plusieurs raisons. Pour une fois, cette section devrait même s'appeler « Et pour commencer », parce que l'histoire que vous venez de lire est la toute première que j'ai imaginée au point de me dire qu'elle ne devait pas rester uniquement dans mon esprit. C'est elle qui m'a donné envie d'écrire alors que rien ne m'y prédisposait. Si vous le voulez bien, je souhaite vous en parler. J'aimerais vous confier non seulement comment est née cette aventure, mais aussi tout ce qu'elle a déclenché. Du coup, ces mots personnels sont très atypiques, car d'habitude, je vous écris ce chapitre particulier juste après avoir achevé le roman qu'il clôture. Or, en l'occurrence, je le rédige plus de 30 ans, 3 décennies, après avoir eu l'élan de partager l'aventure que vous venez de lire. Autant vous dire que j'ai eu le temps de prendre du recul. Calmons d'abord les esprits suspicieux, qui ont souvent bien raison de l'être. Je ne vous propose pas aujourd'hui ce roman de mes débuts pour profiter de la notoriété que vous m'avez offerte en raclant les fonds de tiroir. Vraiment pas. J'ai d'abord eu peur d'être confondu avec ceux qui le font. Mais l'envie était trop forte. J'aime cette intrigue et les valeurs d'attachement et de compagnonnage qui l'habitent. Les sujets historiques que le livre aborde me passionnent et j'aime par-dessus tout l'idée que des individus s'associent par conviction pour défendre quelque chose sans songer à en tirer profit. Ce n'est pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Ce roman est forcément loin d'être parfait, mais il est sincère, idéaliste et humainement porteur d'une expérience personnelle réelle qui m'a profondément marqué. Je me suis battu des années durant pour en récupérer les droits. J'ai renoncé à ce que l'on m'offrait de financièrement avantageux afin de prendre le temps de le réécrire librement, en toute intégrité, avec des partenaires qui comprenaient ma démarche. Vous le présenter tel que je l'ai créé voilà 30 ans aurait été peu honnête au regard de ce dont je suis capable aujourd'hui. L'expérience que j'ai acquise doit être mise au service de tout ce que je vous propose, par respect pour la confiance que vous me témoignez. Alors j'ai attendu le bon moment, retravaillé complètement le texte tout en protégeant son essence. Tout au long de ce processus, je me suis replongé dans cette aventure, ses sentiments, au cœur de ses décors et des énigmes historiques qui sous-tendent le récit. Et j'ai compris pourquoi je tenais tant à vous faire découvrir l'ensemble. Cette histoire renferme une bonne part de ce que je suis et de ce que j'aime. Avant de vous en dévoiler quelques secrets, effectuons un rapide retour sur le contexte dans lequel je l'ai écrite. Nous sommes en 1990, un autre siècle, un autre monde. Les portables n'existent que dans les films de science-fiction. Et en ce temps-là, il est encore impensable qu'un blaireau qui donne son avis sur n'importe quoi ou une bimbo frelatée puisse être connu et écouté par 100 millions d'êtres humains. Parmi tous les espoirs de futur que suscitait l'an 2000, celui-là ne figurait pas. On se demande bien pourquoi. Cette année-là, on en est encore à croire que l'avènement du nouveau millénaire sera le grand soir, même si on commence à se douter que la gueule de bois risque d'être sévère. Je ne regrette pas grand-chose de cette période, sauf ceux que j'aimais et que je pouvais encore alors serrer dans mes bras. Vous ne m'entendrez jamais dire que c'était mieux avant, mais je reste convaincu que tous les progrès ne se valent pas. À l'époque, j'ai 25 ans. Je travaille avec passion dans l'univers du cinéma. J'y ai déjà pratiqué bon nombre de métiers, assistant beaucoup de choses, de la préparation des sandwichs au branchement des câbles, maquettiste, repéreur, manutentionnaire, peintre, chargé de marketing, monteur de bande-annonce, rewriter, artificier, puis pyrotechnicien. Ce qui m'a donné l'occasion de découvrir cette industrie unique, dont le principal pouvoir consiste à donner vie aux rêves, mais aussi à rendre immensément riches des gens peu recommandables humainement qui ne comprennent rien à ce qui alimente leur fortune. C'est aussi là que j'ai constaté à quel point égo et vanité sont néfastes et polluants. Tous ces aspects, idylliques ou douloureux, sont essentiels. Certains le sont cependant plus que d'autres. J'ai eu l'immense chance d'apprendre à œuvrer en équipe, à toutes les heures du jour et de la nuit, sur des sujets aussi variés que la meilleure façon de mettre le feu à quelqu'un sans le tuer, ou la taille maximale des éléments d'une grue de caméra pour qu'elle passe dans des fenêtres moyenâgeuses. Entre nous, c'est sans honte que j'avoue aujourd'hui que nous aurions pu tuer pour disposer d'une GoPro. Mais restons en 1990. J'étais jeune marié, avec Pascal, nous n'avions pas encore d'enfants. Je crois pouvoir affirmer que je savais qui j'étais, enfin presque. Déjà engagé en faveur de ce qui me bouleverse et enragé contre ce qui me révolte. J'ai depuis perdu pas mal d'illusions et de naïveté, mais j'en ai gardé le souvenir indestructible de ce que des gens qui partagent un idéal peuvent accomplir lorsqu'ils avancent ensemble. J'ai grandi en regardant des héros de cinéma justes et droits, et j'ai eu le privilège de me construire auprès de gens incroyablement inventifs et extrêmement humains. Beaucoup ne vivaient que pour leur art, souvent au détriment de leur vie privée. Ce que j'ai capté dans leur sillage m'a permis de préciser mes priorités et m'a surtout donné assez de motivation pour 10 vies. Par contre, à cette époque-là, je n'ai vraiment aucune envie d'écrire. Cela ne fait pas du tout partie de ma sphère des possibles, pas une seconde. Mon parcours s'inscrit au sein des studios, à imaginer et fabriquer, avec une magnifique bande de joyeux gugus. Je n'ai absolument pas l'intention de devenir écrivain. Si une voyante m'avait révélé que quelques années plus tard, je deviendrais auteur de best-sellers, et qu'une autre m'avait annoncé que je quitterais tout pour aller soigner des pandarous dans les forêts montagneuses de l'Himalaya, c'est assurément la seconde que j'aurais pris au sérieux. Même si j'aimais bien les livres de Kipling, Verne ou Dumas, à mes yeux, une émotion se déployait surtout sur un écran de cinéma, en scope et en Dolby. Comme quoi, les certitudes. Rapidement, pourtant, fréquenter les plateaux me permet d'entrevoir une vérité qui va sérieusement ébranler ma perception des choses. À l'époque, d'une façon ou d'une autre, j'ai déjà travaillé sur des dizaines de films, certains pour seulement quelques heures et d'autres pour des mois, en suant sang et eau. J'ai parfois oublié jusqu'au titre de la plupart, mais quelques-uns ont changé mon existence. Pour les rencontres qu'ils ont permises, pour les messages qu'ils portent, ou les deux. J'aime l'énergie des tournages. J'adore la puissance des métiers qui assemblent leur expertise pour créer un moment auquel le spectateur croira. Je suis chaque jour fasciné par le degré de maîtrise qu'il faut dans les domaines de l'illusion et de l'artificiel pour faire exister ce qu'il y a de plus vrai en nous. Fascinant paradoxe d'une pureté absolue qui naît d'un mensonge industrialisé. L'éternel enfant assoiffé d'émotions et de collaborations affectives que je suis avait trouvé son terrain de jeu. Je n'en suis d'ailleurs pas sorti depuis. La première source à avoir comblé ce besoin démesuré de ressentir et de m'associer à mes semblables aura été le cinéma. Ce qu'il m'a apporté, ce qu'il m'apporte, ce qu'il m'a permis de vivre avec ceux que j'ai eu la chance de croiser, bienveillant ou odieux, irradie en moi et éclairera mon âme jusqu'à mon dernier souffle. Je ne crois pas toujours aux histoires que je vois sur un écran, mais je sais que celles vécues par les hommes et les femmes qui les fabriquent sont bien vraies. Elles sont même souvent au moins aussi fortes, magnifiques et tragiques que les films auxquels elles donnent naissance. Ce n'est pas tant le cinéma auquel je voue un culte, que le creuset affectif, dans lequel des cœurs fréquemment tourmentés lui donnent vie. Tout cela pour vous dire qu'en ce temps-là, je n'ai pas du tout l'intention d'écrire, je n'en ai même pas envie. Alors que s'est-il passé? Sur les plateaux, je m'aperçois peu à peu que si l'éclosion des sentiments découle d'une habile fabrication, elle prend sa source dans l'écriture, celle du scénario, des dialogues, et que c'est au contact des comédiens, dans un rapport humain extrêmement personnel, que la confiance nécessaire à la révélation de leur talent s'épanouit. Il faut parfois des tonnes de matériel et des décors gigantesques pour que l'étincelle d'un regard nous frappe en plein cœur. Mais tout cet attirail technique n'est que la forme, pas le fond. Du jour où j'ai pris conscience de cela, tous mes référentiels se sont décalés. Je me suis rendu compte, dans la foulée, que si le cinéma était idéal pour parler au plus grand nombre dans une démarche collective, la littérature était le seul moyen de parler à beaucoup en ne s'adressant qu'à chacun, un à un. Si on y réfléchit, cela change tout. Dès cette prise de conscience, j'ai immédiatement pressenti que ce lien direct, personnel, quasi intime entre un auteur et un lecteur, était celui qui me correspondait le mieux. Vous en vivez la concrétisation à cet instant même. Au moment précis où vous écoutez ces mots, je suis absolument seul avec vous. Cette perspective m'amène immanquablement à une autre question plus fondamentale. Pourquoi est-ce que j'écris? Replonger dans ce roman, pour le réinventer, m'a permis de trouver les réponses. Je note au passage que malgré toutes les interrogations qui m'assaillent chaque jour, il m'aura fallu 30 ans pour commencer à comprendre la manière dont je fonctionne. Pas bien malin, le gamin. Mais ne perdons pas le fil. J'avais donc autre chose à faire qu'à écrire. Ma vie était déjà plus que remplie. Le destin n'a toutefois rien à foutre de votre emploi du temps. C'est ainsi qu'un mardi, sans trop savoir pourquoi, j'ai commencé à écrire. J'ai pris la plume comme on tombe amoureux. C'est une métaphore que j'utilise souvent et que je trouve tout à fait pertinente. Vous sortez de chez vous, un beau matin, vous avez de nombreux rendez-vous, plein d'obligations, bref, pas du tout l'esprit à tomber amoureux. Pourtant, soudain, vous croisez celle ou celui qui déclenche quelque chose de totalement inattendu. Un regard, un geste, une parole résonne en vous et vous révèle tout à coup une part de vous-même que vous ne connaissiez pas. Soyons clairs, votre journée est fichue. Vous ne penserez plus qu'à cette seconde où votre existence a décollé. Plus rien à battre des rendez-vous et des obligations. Vous y serez peut-être présent, mais pas vraiment. Je suis certain que vous saisissez mon propos. Tout ce foutoir va cependant s'accompagner d'un phénomène bien plus important. Vous allez désormais vivre plus fort que jamais. Cette rencontre que vous n'attendiez pas prend votre vie en otage. Elle vous change, vous, ainsi que toute votre perception du monde. Vous vivez pour la prolonger. Vous priez pour qu'elle soit partagée. C'est exactement l'effet que l'écriture a produit sur moi. À mes yeux, écrire, c'est vraiment comme tomber amoureux. Point important néanmoins. À mon sens, ça n'est joli que si ce n'est pas calculé. Si vous sortez de chez vous en vous attendant à tomber amoureux, si vous le cherchez, si vous faites n'importe quoi pour le provoquer artificiellement, au mieux, cela donnera un flirt vide de sens, au pire une sordide parodie. On ne nourrit pas une existence avec ça. Je me suis donc mis à écrire comme un fou, jour et nuit, parce que cette histoire me hantait, m'empêchait de dormir, et que j'avais envie de la raconter à ma façon, sans autre ambition que d'entraîner les gens dans un monde où je vivais plus intensément. Je n'avais plus envie d'y habiter seul. J'ignore pourquoi, mais bien que n'étant ni officiellement qualifié pour écrire, ni légitime dans le rôle de l'écrivain, je me considérais comme le plus capable de raconter ce que j'imaginais. Aveuglement, prétention, enthousiasme du débutant, je n'en sais rien. Mais mon instinct m'a ordonné de me jeter à l'eau sans savoir nager. En discutant avec beaucoup de mes confrères, en lisant les mémoires de ceux que j'admire, j'ai depuis appris qu'un véritable écrivain n'a jamais ni diplôme, ni formation pour le devenir. Il présente tout au plus un acte de naissance qu'il a lui-même rédigé et que le public s'attarde à lire. Ce livre est le mien. J'ai écrit dans l'esprit qui m'emplissait la tête et le cœur, librement, maladroitement, entièrement. Habité par les personnages et l'intrigue que j'avais peu à peu assemblés, en me nourrissant de la passion que j'ai de l'histoire et des projets que j'avais pu approcher. Par curiosité ou conviction, j'ai humblement suivi de nombreuses missions de recherche scientifique et des campagnes de sauvegarde conduites par des fondations. Au-delà du savoir que j'ai pu en tirer, ces travaux très sérieux ont mis le feu à mon imagination et j'ai écrit un incendie. J'en ai lu des histoires sur les Templiers et leurs trésors, tout et n'importe quoi. Mais j'avais le sentiment de proposer quelque chose de différent, avec des éléments inédits. Vous serez les seuls habilités à juger du bien fondé de mon ressenti. Ce livre est également une déclaration d'amitié à mes complices, un hommage à ceux qui ont inventé notre monde pour ce qu'il a de meilleur. Je ne suis ni fanatique religieux, ni membre d'aucun ordre, secte ou parti, mais je suis admiratif de celles et ceux qui savent imaginer plus loin, espérer plus fort, et pas uniquement pour eux-mêmes. Si on se donne la peine de regarder un peu, ils sont présents partout, capables et volontaires, sous toutes les latitudes, à toutes les époques, et c'est assez réconfortant. Sans les femmes et les hommes de bonne volonté, notre espèce ne vaudrait pas grand-chose. Dans une incandescence créative épuisante pour mon entourage, j'ai écrit le premier jet en 5 mois, en y consacrant la moindre minute de temps libre. Plus de 700 pages. Un texte objectivement trop long, trop descriptif, trop explicatif, souvent lourd, mais avec néanmoins quelques moments où j'avais l'impression, peut-être illusoire, d'arriver à transmettre ce que j'éprouvais. J'étais tellement fier, si enthousiaste, comme un môme qui a réalisé un dessin et se précipite vers les adultes pour leur faire admirer son chef-d'œuvre. C'est beau d'être jeune. J'ai fait lire à mes proches. Une loi fondamentale de la condition d'auteur m'est alors apparue. Il existe sur votre œuvre autant d'avis que de lecteurs. Tout le monde y allait de son commentaire, de ses remarques, de ses suggestions de coupe. Si j'avais tenu compte de tout, c'est bien simple. Le livre n'existerait plus, parce que chacun avait quelque chose à modifier et jamais la même chose. De quoi faire imploser le récit. Chacun voulait que le livre ne parle que de ce qui l'intéressait le plus. C'est alors que m'est apparue la seconde loi fondamentale de l'écrivain. C'est à vous de savoir ce que vous voulez écrire, et vous avez intérêt à le faire correctement. Ne laissez personne être plus exigeant avec vous que vous-même. J'ai envoyé mon manuscrit à une 20aine de grands éditeurs. J'attends encore les réponses de beaucoup. Et je note avec une tendresse amusée que Flammarion me l'avait poliment refusé. Eux avaient au moins pris la peine de le lire et de me répondre. J'ai ensuite découvert la troisième loi de la création littéraire. Savoir écrire, c'est savoir couper. Que les éditeurs refusent mon livre ou ne me répondent pas n'était pas une raison pour que je reste les bras croisés à me lamenter. Je me suis demandé comment améliorer ce que j'avais produit. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que la qualité du texte n'est pas prépondérante dans l'intérêt qu'un éditeur peut vous porter. Par contre, les conditions dans lesquelles il vous rencontre sont essentielles. Étrangement, dans ce métier, particulièrement en France, on regarde d'abord qui vous êtes avant d'évaluer ce que vous faites. Je me suis donc retrouvé à gérer mon texte seul, enfin presque, puisque je bénéficiais du regard déjà très précis de Pascal, qui m'a constamment aidé et encouragé. J'ai donc coupé, réécrit et repris pendant 4 ans. Une odyssée durant laquelle j'ai traversé une multitude de sentiments. À la vibrante ferveur du déversement des mots succéda le fastidieux labeur de leur mise en ordre. J'ai parfois eu honte du premier pavé que j'avais envoyé, et je me suis régulièrement dit que silence et refus étaient parfaitement justifiés. Les jours de grand abattement, je me suis même crucifié, convaincu que si j'avais été à la place de ceux à qui j'ai adressé mon roman, j'aurais immédiatement conseillé à l'auteur d'arrêter d'écrire. Pour me soutenir, mon père m'a rappelé qu'avant d'être taillé, le plus beau diamant du monde n'a été qu'un infâme caillou que le profane ne se serait jamais abaissé à ramasser. Je ne suis pas convaincu que mes livres soient des diamants, mais j'aurais quand même bien aimé que papa vive assez longtemps pour voir ce que j'ai réussi à extraire de la mine. Après l'insouciante période de première pression spontanée qui vit le texte émerger, j'ai salement souffert. J'ai maudit cet amas de mots. J'ai méprisé mon rêve. J'ai détesté ma folle prétention à vouloir créer par moi-même ces histoires auxquelles il était bien plus simple de collaborer au cinéma quand d'autres, eux bourrés de talent, leur donnaient vie en ayant la bonté de m'accepter dans leur équipe. Ce fut le moment le plus terrible, qui dura quand même plus de 2 ans. Celui où vous ne vous battez pas contre un élément extérieur que vous pouvez haïr, mais contre vous-même. Il est plus facile d'en vouloir à la terre entière que d'affronter ses propres limites. La seule solution pour s'extraire de ce noir chaudron, c'est d'apprendre, sur soi-même et sur la fonction. Et surtout, d'arrêter de mettre des états d'âme là où il ne faut que du travail. J'avais la chance d'avoir Pascal à mes côtés. Ce n'est pas par hasard que mon livre s'ouvre sur « À la moitié sans qui je ne peux pas vivre ». Je me souviens de cette période comme d'une épreuve, d'une guerre intérieure. Chaque jour, j'hésitais entre abandonner ou repartir à la charge. Certains éléments du texte me donnait le courage de remonter au front, parce que dans ce chantier, entre les remises en cause, les doutes et le travail énorme qu'il me restait à accomplir sur l'écriture, la passion pour les personnages, le ton particulier de l'intrigue dans ces décors inédits, m'insufflait régulièrement la force de continuer. J'ai tenu bon, contre moi, mais aussi, de façon assez schizophrène, grâce à moi. Pas à pas, j'ai réussi à avancer, en dépit de ceux qui ont tenté de m'étouffer avant même que je respire, mais surtout grâce à ceux qui m'ont soutenu dans mon inconscience. À ceux sans qui je n'aurais pas de raison, aux rêveurs sans qui le monde n'avance pas. Ces mots résonnaient en moi, aussi bien dans l'histoire que dans ma vie. Ils le font toujours. Quel crétin j'ai été de me lancer là-dedans. Mais je ne regrette rien. Il me fallait traverser cela pour devenir moi-même. C'est ce qui m'a permis de trouver ma place. Après cette étincelante déclaration, je n'oublie jamais que cette pauvre cuisine interne qui prend des proportions bibliques, ces affres pathétiques pour créer un bouquin de plus alors qu'il en existe déjà tant, ne conduiront au mieux qu'à un plaisir de quelques heures pour des gens qui ont aussi leur vie et leurs soucis. C'est ainsi. Un auteur doit endurer tout cela pour espérer provoquer quelques instants du bonheur fugace d'un lecteur. Depuis que je l'ai compris, je n'ai plus jamais été fier de quoi que ce soit que j'ai pu faire. J'essaye simplement d'en être heureux et de le partager. Avec le recul et mon succès en comédie, je me suis aussi demandé pourquoi c'est par un thriller que j'ai commencé. Dans la vie, j'ai toujours beaucoup aimé rire. Je me méfie des individus qui n'ont pas d'humour. Je les évite autant que je peux. Alors pourquoi m'étais-je enthousiasmé à ce point pour une histoire qui n'avait rien de drôle? Tout simplement parce que sur le fond, je suis un garçon sérieux et très responsable. Je rigole beaucoup, mais pas de tout. Mon premier terrain de galop aura été cette aventure, technique, historique, masculine. Cela ne m'empêchera pas, quelques années plus tard, de me glisser dans la peau de jeune femme pour d'autres écritures. J'aime bien tous les styles, j'y suis bien, et je ne vois pas pourquoi je ne devrais devenir qu'un faiseur de produits, fournissant un seul genre, alors que je suis un auteur qui peut proposer un registre bien plus large. Seul compte le sentiment que l'on transmet. C'est donc avec un immense bonheur que j'assume ce grand écart. J'ai écrit pour un instant d'éternité, et demain j'arrête. Et vous m'avez fait assez confiance pour me suivre sur tous les territoires. Je vous en remercie. Ce premier roman est personnellement fondateur à plus d'un titre. Grâce à lui, je me suis prouvé que je pouvais me battre contre moi-même et gagner. Si, si, vous avez bien entendu. Grâce à ce texte, j'ai appris que je pouvais me cramponner et mener une histoire jusqu'au bout. J'ai vérifié que je pouvais ingurgiter des milliers de pages de documentation pour n'en tirer qu'un détail qui sonne vrai. Mais ce n'est pourtant pas ce que j'ai compris de plus important. Avec ce premier livre, j'ai découvert ce qu'étaient les lectrices et les lecteurs, ces inconnus affamés que parfois, un auteur parvient à nourrir au fil de quelques pages. J'ai été témoin de ce qu'ils sont capables de percevoir à travers les lignes, de ce qu'ils sont prêts à faire pour vous le dire et vous soutenir. Le regard de quelqu'un qui a aimé votre livre est sans équivalent. Un trésor, un cadeau, sans aucun doute, mais surtout un pont entre deux âmes. J'ai eu la chance de vivre cela avec ce tout premier livre. Vous n'espériez pas que cela allait me calmer? Alors j'ai continué à écrire ce que je rêve, ce que j'éprouve, au prisme de ce que je suis. Je le fais avec l'espoir que cela puisse vous distraire et vous faire vibrer. Je ne vais pas vous faire perdre de temps avec les détails. 4 ans d'acharnement m'auront été nécessaires pour que ce premier roman devienne enfin un livre. J'ai dû insister pour être édité. J'ai aussi eu la chance d'être aidé. J'ai coupé plus de la moitié du texte. Avec le recul, je n'ai gardé que ce qui porte l'élan le plus intègre. Il a été publié directement en poche, mais ça m'allait très bien. Je ne cherchais pas une image de marque, mais à être lu. Il est sorti chez J'ai lu, puis il est passé ailleurs, avant d'y revenir pour le meilleur. Aujourd'hui, il est là, entre vos mains. Pour moi, c'est un peu une boucle qui s'achève joliment. Peu importe ce qu'il aura fallu pour en arriver là, ma seule finalité est de vous emporter. J'espère que ce roman vous a fait passer un bon moment. J'espère qu'il vous incite à en apprendre davantage sur tout ce qu'il aborde. J'espère qu'il vous poussera aussi à faire équipe pour avancer avec ceux dont le cœur bat au même rythme que le vôtre. Parce qu'il ne s'agit de rien d'autre. Faire battre votre cœur en vous proposant de sentir battre le mien. À très bientôt. Merci d'être là. Votre bien dévoué, Gilles.